en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment fonctionne le modèle universitaire en Suisse, ou plus exactement dans la Confédération helvétique ? Tel est le thème traité par Robert Kopp, professeur de littérature française à l'Université de Bâle, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, dans la communication qu'il a donnée devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 23 novembre 2009. Cette communication s'inscrit dans la thématique d'année choisie par le président Jean-Claude Casanova, Université, sciences et recherche dans la France d'aujourd'hui, la comparaison avec la Suisse contribue à éclairer la situation de l'université en France.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs les académiciens. Au début de ce cycle, Monsieur Claude Allègre a distingué, en gros, deux modèles universitaires, le modèle américain et le modèle européen, dont les deux variantes les plus importantes sont le modèle allemand, se réclamant de Humboldt, et le modèle français, inspiré par Napoléon. Je voudrais essayer de situer sur cet échiquier le modèle suisse qui, inspiré à l'origine par Humboldt, a fortement subi l'influence américaine et qui, actuellement, semble trouver quelques vertus au système français. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire un rapide état des lieux. J'essaierai ensuite de préciser la place qu'occupent les universités dans le système éducatif suisse, puis j'analyserai leur fonctionnement et je terminerai par quelques remarques sur l'organisation de la recherche. Il existe en Suisse actuellement 12 universités ou, selon la terminologie officielle en vigueur depuis une dizaine d'années, 12 hautes écoles universitaires, auxquelles il faut ajouter 6 pôles de hautes écoles spécialisées, créées au cours de ces 10 dernières années et regroupant au total une soixantaine d'instituts de formation en tout genre, écoles de commerce, écoles des arts et des métiers, écoles d'ingénieurs. Et enfin, nous avons 14 hautes écoles pédagogiques, généralement issues d'anciennes écoles normales et ressemblant parfois à ce qu'étaient en France les IUFM, comme quoi personne n'est à l'abri du pédagogisme. Rien que la similitude des sigles, HEU pour hautes écoles universitaires, HES pour hautes écoles spécialisées et HEP pour hautes écoles pédagogiques trahit l'ambition des deux dernières catégories d'être assimilées par le biais du système de Bologne aux universités traditionnelles. Elles ont d'ailleurs signé avec celles-ci un certain nombre de contrats de coopération. Elles délivrent, comme les universités, des titres de bachelier, de BA, selon la terminologie anglo-saxonne en vigueur chez nous. Bientôt, elles vont distribuer des MA et elles prétendent faire de la recherche, surtout de la recherche appliquée, particulièrement bien vue dans un pays qui s'enorgueillit de son sens pratique. Les universités suisses, à l'exception des écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne, sont toutes cantonales. Elles sont de taille moyenne, 11 à 13 000 étudiants pour Bâle, Berne, Fribourg, ou même de petite taille, 3 800 pour Neuchâtel, 2 500 pour Lucerne. Ce qui pose aujourd'hui à certaines des problèmes de survie, d'où la nécessité de regroupement. De regroupement par discipline plutôt que par université. Ainsi, la médecine à Genève et à Lausanne ont pratiquement fusionné. L'économie entre Neuchâtel et Lausanne est organisée par le pôle de Lausanne, etc., etc. On constate d'ailleurs de façon générale une tendance vers une plus grande concentration, et ceci à tous les niveaux, législatif, enseignement, recherche. Et cette tendance centralisatrice va sans doute s'accentuer dans les années à venir. Les universités suisses, à l'exception de celle de Bâle, fondée en 1460 grâce à l'appui de l'ancien secrétaire général du concile de Bâle, Ferrare Florence, le grand humaniste est né à Silvio Piccolomini, devenu pape Pie II, les universités suisses sont toutes relativement jeunes. Elles sont généralement issues d'anciennes académies dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ainsi, Genève, où Calvin a fondé une académie en 1559, conçue comme un séminaire de théologie, est devenue université en 1873, au moment de l'ouverture d'une faculté de médecine. À Fribourg, c'est le Collège Saint-Michel, fondé en 1582, qui a donné lieu à la création d'une académie de droit en 1763 et en 1889 de la première université d'un canton catholique. Cette dernière précision n'est pas sans importance, car la Suisse repose sur un équilibre savamment dosé et entretenu entre les langues, les religions, les cantons urbanisés et les autres. Une tendance donc à la décentralisation, pour ne pas dire à l'éparpillement, qui contredit la tendance à la centralisation. Certaines universités ne sont pas récentes, mais très récentes, comme celle de Lucerne, nouvel équilibre en direction des cantons catholiques, à une ancienne école de théologie remontant aux alentours de 1600, se sont ajoutées il y a une quinzaine d'années seulement une faculté de droit et une autre de sciences dites culturelles et sociales. Enfin, la dernière création est l'Université della Svizzera Italiana, où, à une école d'architecture fondée par Mario Botta, se sont agrégées une faculté di scienze della comunicazione, di scienze economiche et di scienze informatiche. Ces implantations récentes répondent évidemment au désir des cantons non universitaires de devenir à leur tour cantons universitaires, pour des raisons politiques, économiques et de prestige. Posséder une université, c'est augmenter l'attractivité territoriale du canton. À l'exception de l'École polytechnique fédérale, créée elle aussi dans la deuxième moitié du XIXe siècle et de son pendant romain à Lausanne, qui remonte aux années 1960, les universités suisses s'orientent, ou, faut-il dire désormais, s'orientaient à l'idéal de Humboldt, qui repose, cela a été rappelé plus d'une fois dans cette enceinte, premièrement sur la réunion de toutes les facultés et donc de toutes les disciplines dans une même institution afin de favoriser le dialogue interdisciplinaire. Deuxièmement, sur l'unité de l'enseignement et de la recherche, l'université ne transmettant pas, contrairement au gymnasium, des savoirs constitués, mais initiant à des savoirs en devenir. Et troisièmement, sur la liberté absolue d'une recherche qui se veut d'abord au service de la connaissance avant d'être à celui de la société. Pour Humboldt, la Bildung, c'est-à-dire la formation d'un esprit critique et libre, passe avant la Ausbildung, c'est-à-dire la formation professionnalisante, comme on dit aujourd'hui. Ce modèle humboldtien, conçu pour des universités destinées à une élite, ne semblait plus adapté à des universités envahies par les masses. Il a été balayé par la réforme dite de Bologne, visant à instaurer un espace universitaire européen unique et à transformer les universités en hautes écoles. Le changement de terminologie, me semble-t-il, n'est pas tout à fait innocent. La Suisse, si souvent mauvaise élève d'une Europe à laquelle elle participe bon gré mal gré dans de nombreux domaines sans pour autant y adhérer, a fait signer, tout comme 28 autres pays, la déclaration du 19 juin 1999, non pas par son ministre de l'Éducation et de la Recherche, poste qui n'existe pas, mais par son secrétaire d'État à la formation et à la recherche, qui dépend du ministre de l'Intérieur. Le Conseil fédéral, en expédiant M. Kléber à Bologne, a donc passé par-dessus les autorités cantonales, en principe seules compétentes en la matière. Il n'a pas non plus consulté la communauté universitaire, alors que les larges consultations font partie des habitudes de la vie politique suisse. Enfin, il n'y avait, me semble-t-il, aucune urgence, puisque nous n'étions à aucun moment confrontés au problème d'université de masse. Ce petit coup d'État a d'ailleurs passé à peu près inaperçu, d'autant que la plupart des décisions européennes ne suscitent pas en Suisse un intérêt démesuré. On les considère souvent, mais on a tort, comme de simples déclarations d'intention. Beaucoup d'universitaires regrettent aujourd'hui de ne pas avoir été plus vigilants. Le pouvoir central pouvait, en revanche, compter, avec la complicité des recteurs, élus par leurs universités respectives, traditionnellement pour des mandats de durée très limitée, mais durée qui avait partout tendance à s'allonger sous prétexte de professionnalisation. Grâce à la réforme, ils ont réussi à accroître considérablement leur pouvoir. Les universités devenues autonomes, les unes après les autres, dans les années qui ont précédé la signature des accords de Bologne, étaient dorénavant assimilées à des entreprises pourvues d'un conseil d'administration et d'un CEO. Le mot d'ordre de la fin des années 90 avait été « Il faut détruire les féodalités ». Traduisez, il faut soumettre les professeurs à la discipline de l'entreprise et rabaisser les directeurs d'institut au rang de chef d'unité de production auxquels on assigne des objectifs. Le règne des gestionnaires avait commencé. Dans l'ancienne université, l'enseignement et la recherche s'organisaient au niveau de l'institut, souvent d'importants crédits, et de nombreux postes d'assistants étaient à la disposition du titulaire de la chaire ou, comme il était écrit dans les contrats, ad personam. Au-dessus des instituts, les facultés étaient responsables, en dernière instance, des grades académiques, doctorat, habilitation, ainsi que du recrutement des professeurs. Le doyen, mandaté par ses collègues, négociait directement avec le ministre du canton. Et chacun se débrouillait auprès des nombreuses fondations privées pour financer ses recherches. Les budgets universitaires n'étaient peut-être pas toujours d'une transparence absolue. Mais les plus actifs parmi mes collègues s'accommodaient fort bien de ce relatif désordre. Il y en a même qui sont allés jusqu'à évoquer les vertus créatrices du chaos. Actuellement, les universités sont strictement hiérarchisées. Le rectorat dispose d'une enveloppe budgétaire qu'il répartit entre les facultés, qui répartissent à leur tour la manne disponible entre les départements, puis les départements entre les instituts, chaque échelon gardant au passage une petite réserve dite stratégique. Cette réorganisation a entraîné en 10 ans une multiplication par 10 des postes administratifs, tant au niveau des rectorats que des facultés et des départements. Et qui dit administration dit évidemment perte de temps et d'énergie pour ceux qui font le travail, les enseignants et les chercheurs, sans parler des étudiants qui ont de plus en plus de dossiers inutiles à remplir. Il y a plus grave. Cette administration revendique désormais un droit à l'existence et veut faire parler d'elle. Et comme elle ne produit rien ni dans le domaine de l'enseignement ni dans celui de la recherche, elle s'est réservée par exemple celui de la communication, de la réclame si vous voulez, engendrant toutes les dérives que connaissent les institutions culturelles telles les musées, salles de concert et autres, si bien que nous avons partout cafés scientifiques pour les familles, nuits de l'université sur le modèle de la nuit des musées où on fait cours 24 heures sur 24, université pour les enfants, vente de produits dérivés, t-shirts, sacs, foulards en tout genre. Signe des temps, parmi d'autres, mon université Pour le 500e anniversaire, en 1960, à l'époque où elle comptait parmi ses professeurs Karl Barth, Karl Jaspers, Adolf Portmann, Thaddeus Reifstein, mathématicien et prix Nobel de médecine. Eh bien, pour le 500e anniversaire, elle avait chargé le grand historien suisse Edgar Bonjour d'écrire son histoire. Il en est résulté un ouvrage de plus de 800 pages qui fait toujours autorité. Il y a 15 jours, pour le 550e anniversaire de la même université, l'actuel recteur a présenté à la presse ébahie et au public ravi une bande dessinée retraçant les 600 ans de notre alma mater. Il faut à tout prix éviter de paraître élitaire. C'est dire, mesdames, messieurs, que les 10 dernières années ont révolutionné le paysage universitaire suisse. Une révolution toutefois qui, replacée dans le moyen terme, est à beaucoup d'égards de surface, alors qu'à d'autres égards, elle pourrait produire des conséquences graves dont on ne mesure peut-être pas encore toute la portée. C'est ce que j'aimerais essayer de montrer en situant d'abord les universités dans le contexte de l'éducation, du système éducatif suisse. Je vous demande pardon de rappeler tout d'abord une donnée qui, pour beaucoup de Français, relève presque de l'impensable. L'État, en Suisse, c'est le canton. Quand nous parlons de l'ensemble des 26 cantons, nous parlons de la Confédération, ou, comme disait mon père, ces messieurs de Berne. Cette confédération helvétique est née en 1848, ce qui fait de la Suisse non pas la plus vieille des démocraties, mais un des plus jeunes des États européens. De toute façon, on peut se demander si démocratie est le terme qui caractérise le mieux mon pays. Gobineau, secrétaire d'ambassade à Berne entre 1850 et 1854, dans ses lettres à Tocqueville, a préféré le terme de « médiocratie » tant il observe partout un amour ardent pour ce qui est moyen et une haine féroce pour tout ce qui dépasse cette moyenne. Un trait qui caractérise aujourd'hui encore beaucoup de décisions qui sont prises en Suisse, y compris en matière d'éducation. Institutionnellement, la Confédération obéit au principe de subsidiarité, ne sont délégués à l'échelon supérieur et le plus souvent à contre-cœur que les compétences que l'échelon inférieur est incapable d'assumer. Celles qui concernent la politique extérieure, la défense, les autoroutes, les chemins de fer, etc. Mais non pas la police, qui est cantonale, et encore moins l'éducation et la culture. Article 62 de la Constitution de 1998, la troisième depuis 1848. L'instruction publique est du ressort des cantons. Article 63, la Confédération légifère sur la formation professionnelle. La nuance est d'importance. Ainsi, il existe en Suisse 26 systèmes d'éducation différents, si bien que l'école primaire peut durer 5 ou 6 ans. Le cycle d'orientation, l'équivalent du collège, 3 ou 4 ans. On fait sa maturité, comme nous disons, l'équivalent du baccalauréat, à l'intérieur d'ailleurs de son établissement, après une scolarité totale de 12, de 12 ans et demi ou de 13 ans, soit en juin, soit en décembre. Quand une famille déménage d'un canton à l'autre, souvent les enfants perdent une année. Situation mal vécue par un nombre grandissant de familles contraintes à la mobilité dans le monde du travail en mouvement. Ainsi, la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, depuis des années, essaye d'harmoniser les systèmes scolaires avec un résultat extrêmement mitigé. Car, en dernier sort, ce sont les cantons qui votent. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, si tout le monde est aujourd'hui d'accord qu'il faut inscrire dans les programmes dès l'enseignement primaire une première et même une deuxième langue étrangère, les cantons diffèrent quant au choix de la dite langue et quant au moment de son introduction dans le cursus scolaire. Les habitants du canton de Zurich ont ainsi décidé d'introduire l'anglais à partir de la troisième année de l'école primaire et le français à partir de la cinquième année. Vous voyez, les langues nationales ne sont plus prioritaires. En revanche, les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure, situation frontalière oblige, commencent avec le français, mais à partir de la cinquième année seulement. Vu l'incapacité des cantons de s'entendre dans un laps de temps raisonnable, le Conseil fédéral, poussé par le ministre de l'Intérieur Pascal Couchepin, valaisan d'origine et francophone, admirateur de la France et, fait plus rare en Suisse, grand admirateur de Napoléon, a concocté toute une série d'articles constitutionnels visant à créer, nouveauté absolue dans l'histoire de mon pays, un, je cite, « espace suisse de formation ». C'est le terme désormais officiel. Et d'élargir considérablement les compétences de la Confédération en la matière. Ces modifications apportées à la Constitution de 1998 ont été approuvées le 21 mai 2006 par une majorité des votants et des cantons, la double majorité étant requise dans ces cas. Désormais, la Confédération peut obliger les cantons à harmoniser leur système scolaire et une date limite est d'ores et déjà fixée, 2014. La Confédération accroît également son emprise sur les universités cantonales par le moyen de subventions directes, ainsi que par un contrôle de qualité exercé à travers un système complexe d'évaluation et d'accréditation. Par ailleurs, la conférence des recteurs dispose elle aussi de pouvoirs accrus, lui permettant de rendre plus impératives ses recommandations. Voilà donc toute une série de mesures centralisatrices qui sont en train de changer considérablement le système traditionnel. Toutefois, ce qui distinguera, et pour longtemps, le système scolaire et universitaire suisse de ceux des autres pays européens, c'est son taux de bacheliers par classe d'âge. Moyenne nationale en 2008, 19,7%. Là aussi, les écarts entre les cantons sont considérables. En queue de peloton, Saint-Gall, avec 13,7%. En tête, Genève, avec 29,3%. Il ne faudrait pas en déduire que Saint-Gall est un canton rural, loin de là. Saint-Gall est un canton universitaire, dispose grâce à la haute école commerciale d'un rayonnement international considérable, mais Saint-Gall dispose d'un tissu industriel très dense dans le domaine des machines-outils et de l'informatique, et ses PME offrent à leurs apprentis d'alléchantes perspectives de carrière. En chiffres absolus, cela signifie, toujours pour l'année 2008, 18 000 titulaires d'un baccalauréat général, auquel il faut ajouter 11 000 titulaires d'un baccalauréat professionnel, titre créé en 1993, et dont les porteurs sont admis dans une des hautes écoles spécialisées. Et à certaines conditions, ils peuvent intégrer les hautes écoles universitaires après avoir acquis le grade de bachelor, l'équivalent de la licence, au bout de 3 ans. Très récemment, ce taux comparativement bas de 19,7 bacheliers généraux par classe d'âge a suscité de très vives critiques de la part de l'Académie suisse des sciences, réunissant toutes les disciplines, sciences exactes, sciences humaines, médecine, etc., qui demande, dans un livre blanc publié à la fin de l'été 2009, qu'à l'horizon 2030, ce taux soit au moins doublé afin que la Suisse, je cite, « puisse faire face aux nouveaux défis dans les domaines de l'économie, des technologies, de communication, de l'environnement et des sciences ». La réaction des milieux politiques et économiques ne s'est pas fait attendre. Elles furent unanimement négatives. Et de nombreuses voix se sont aussitôt élevées, réclamant au contraire des moyens accrus pour garantir la qualité de la formation professionnelle qui concerne 70% des jeunes. Par ailleurs, a-t-on fait remarquer, les 19,7% sont trompeurs, car il faut y ajouter les chiffres des baccalauréats professionnels, de même qu'il faut additionner le nombre des étudiants inscrits dans les hautes écoles universitaires, 121 000 en 2008, et celui des hautes écoles spécialisées, 63 000, toujours en 2008. Ainsi, la Suisse, au moins statistiquement, se rapproche un peu de ses voisins européens. Si la France revendique avec fierté son exception, la Suisse, elle, s'efforce furieusement de ressembler à tout le monde. Quels sont les scénarios esquissés pour la prochaine décennie ? Je me permets de vous donner les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique, dont le site web fourmille d'ailleurs de renseignements très utiles. Jusqu'en 2018, le nombre des étudiants des hautes écoles universitaires augmentera de 20% environ, celui des hautes écoles spécialisées de 30%. Toutefois, cette augmentation ne sera pas linéaire. La courbe sera d'abord ascendante et puis étale à peu près à partir de 2015. Et comme le nombre des élèves du secondaire, dès cette année-ci, n'augmente plus, pour diminuer ensuite de 8% ensuite jusqu'en 2018, cela signifie que le taux des jeunes ayant fait des études supérieures, hautes écoles universitaires et hautes écoles spécialisées confondues, s'établira pas loin de 30%. Ce sera déjà trop aux yeux d'une notable partie de la population hostile à l'idée qu'un instituteur ou une aide-soignante ait besoin d'un titre académique. La force du système suisse réside dans sa dualité, apprentissage-université. Pour de longues années encore, deux tiers des jeunes feront un apprentissage et un tiers seulement des études supérieures. Il faut répéter que les perspectives de carrière pour un apprenti sont souvent plus intéressantes financièrement que pour un jeune diplômé. S'ajoute à cela qu'en Suisse, l'échelle des salaires est relativement écrasée. Pour 90% des salaires, elle va de 1 à 6 environ. Comment sont organisées les universités cantonales ? Comment sont organisées les écoles polytechniques fédérales ? Commençons, si vous voulez bien, par ces dernières. Réorganisées en 2004, les deux écoles polytechniques sont aujourd'hui totalement autonomes et travaillent, en étroite collaboration, il est vrai, chacune avec un budget global alloué par la Confédération. Chacune est dirigée par un président et quatre vice-présidents qui se partagent les affaires académiques, les affaires institutionnelles, la planification, la logistique, l'innovation, la valorisation, etc. La valorisation revêt un point revêt une importance particulière, puisque si vous allez sur le site des deux institutions, on vous donne immédiatement, dès la page d'entrée, les places respectives dans les différents rankings, ainsi que le nombre de prix Nobel et le nombre de brevets déposés chaque année. Le budget global de l'École polytechnique de Zurich en 2008, a été, je traduis en euros, de 800 millions d'euros pour 15 000 étudiants, dont 30% sont étrangers. C'est le plus haut taux d'étrangers en Suisse, 10% de plus que la moyenne des universités. La taille de l'École polytechnique de Lausanne étant de moitié moindre, le budget l'est également. Si vous additionnez ces chiffres, vous arrivez au résultat final. Les écoles polytechniques absorbent à elles seules 30% du total des charges des hautes écoles universitaires en Suisse, alors qu'elles ne totalisent que 20% des étudiants. C'est dire leur importance Dans le paysage universitaire suisse, on comprend aussi qu'elle soit parfois jalousée par les universités cantonales. Celles-ci ont, elles aussi, été réorganisées au cours des 10 dernières années et elles sont également toutes devenues autonomes. Les parlements cantonaux votent désormais une enveloppe budgétaire sur plusieurs années, à charge pour les universités d'augmenter leurs dotations par l'acquisition de projets de recherche, par l'augmentation des droits d'inscription, par l'augmentation du nombre des étudiants, car les cantons non universitaires payent pour chacun de leurs ressortissants aux universités qui les accueillent, et il y a évidemment des filières rentables, comme les lettres, et des filières déficitaires, comme la médecine. Les universités sont également invitées à vendre leurs services, sont également invités à acquérir des donations. La marge de manœuvre des rectorats, mais aussi de chacun des professeurs, est réelle et varie entre 10 et 25% du budget global. Mais l'autonomie ne sera totale que lorsque les universités auront également la gestion de leur parc immobilier, ce qui ne tardera pas à venir dans les 3 à 5 années à venir. Chaque canton universitaire a donc voté au cours des 10 dernières années une nouvelle loi universitaire. Ces lois ne diffèrent que très peu les unes des autres. La gouvernance des universités est partout réglée de la même manière. Organe suprême, un conseil de l'université qui joue le rôle d'un conseil d'administration et dont les membres sont nommés par les gouvernements cantonaux respectifs et se compose à quelques variations près, grosso modo, un tiers de politiques, un tiers de scientifiques, un tiers de représentants du monde industriel et de l'économie. C'est ce conseil qui, en dernier ressort, engage les professeurs sur proposition du rectorat, les licencie, le cas échéant. Il existe dans chacune des universités suisses de cas de professeurs dont le contrat n'a pas été renouvelé. Aucun enseignant n'est fonctionnaire. Tous sont soumis à évaluation, évaluation qui peut être individuelle, mais elle concerne le plus souvent des disciplines entières, des instituts, voire des facultés. Nous distinguons différents types de professeurs. Les professeurs dits ordinaires, qui sont titulaires de l'ECHER, qui dirigent leur institut. Des professeurs dits extraordinaires, généralement à temps partiel, ce sont souvent des juristes et des médecins qui travaillent en ville. Des professeurs assistants, avec ou sans tenure track, comme on dit, une catégorie qui favorise la relève, mais permet aussi de faire d'appréciables économies et de réduire la voilure de filière qu'on n'a pas le courage de faire disparaître brutalement. D'autre part, le rectorat peut, sur proposition des facultés, ouvrir de nouvelles filières et en fermer d'autres. Ce faisant, il étudie évidemment l'attractivité de ces filières. Mais céder ainsi à la demande signifie souvent suivre une mode. Actuellement, c'est celle de la sociologie, de la psychologie, de la communication. Et à trop céder aux lois du marché, les universités risquent de s'installer dans un court terme qui ne peut que nuire à la recherche. Les contrats entre professeurs et universités sont négociés entre le rectorat et le candidat, mais plus on descend dans la hiérarchie, plus la marge de manœuvre est réduite. Mais rien n'empêche un enseignant d'aller jouer dans un autre club. Les transferts sont fréquents, surtout des bons joueurs. Toutefois, les clubs ne sont pas toujours prêts à investir là où l'ensemble de l'équipe le souhaiterait. Les salaires suisses étant en général d'un tiers, voire de moitié plus élevés, mais le coût de la vie l'étant aussi, la moitié du corps enseignant est d'origine étrangère. La relève suisse, d'ailleurs, ne suffirait pas, et de loin, à combler les besoins. Les mises au concours sont obligatoirement internationales. Et actuellement, seuls les États-Unis offrent aux enseignants-chercheurs des conditions de travail meilleures. La charge d'enseignement d'un professeur est relativement lourde comparée à la France, de 6 à 8 heures par semaine, de 4 heures pour les professeurs assistants, puisqu'on leur demande de se qualifier par des publications. Des semestres sabbatiques sont accordés sur projet environ tous les 4 ans. L'enseignement est conçu d'après le système modulaire de Bologne, 180 points crédit pour un bachelor en 3 ans, 120 pour un master en 2 ans, un point crédit équivaut à 30 heures de travail. Vous voyez, l'étudiant est ainsi censé travailler 1800 heures par an. Mais pour l'instant, et c'est là que le bât blesse, seules les structures ont été harmonisées et non pas les contenus. Ce qui a pour premier effet de la réforme de Bologne de diminuer la mobilité des étudiants, alors que le but déclaré de la réforme était de l'augmenter. Partout se mettent en place également des écoles doctorales. Ainsi, l'université, pour le meilleur et pour le pire, s'est transformée en école obsédée par la quantification, y compris dans le domaine de la recherche. Nous avons des vice-recteurs, si ce n'est des recteurs, qui aiment beaucoup la bibliométrie. Pour les filières déjà fortement scolarisées, telles la médecine, les sciences ou l'économie, le changement, évidemment, est beaucoup moins important que pour celles du droit, des lettres et des sciences humaines. Aussi, les foyers de mécontentement, dont vous avez pu voir quelques échos dans la presse, à Bâle et à Zurich, le grand amphithéâtre a été occupé pendant 48 heures par un groupe d'étudiants mécontents. Les foyers de mécontentement se situent toujours dans les mêmes disciplines qu'en France, sans provoquer évidemment les mêmes excès. À Bâle, le recteur a simplement coupé l'eau, l'électricité et le chauffage, et c'est ainsi que la réunion s'est terminée au bout de 48 heures. Les gens sont partis en disant qu'ils ne lâcheraient rien. Ceci dit, les droits d'inscription de 500 euros au minimum par semestre font que maintenant les étudiants hésitent à s'associer à ce genre de manifestation car ça fait trop cher le semestre pour ne pas avoir les points crédits à la fin. Les professeurs, quant à eux, n'ont pas le droit de grève. Comment est organisée la recherche ? Une des principales différences entre la Suisse et la France concerne aussi l'organisation de la recherche. Premièrement, les sommes investies par les grands groupes industriels, notamment pharmaceutiques, dépassent et de loin les sommes investies par les universités et le Fonds suisse de la recherche scientifique réuni. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a été créé, tout comme le CNRS, au lendemain de la guerre. C'est l'organe fédéral de la recherche. Des scientifiques et des industriels reprenant contact avec leurs collègues étrangers après la guerre se sont rendus compte que les pays ayant joué un rôle prépondérant dans la guerre avaient un niveau de recherche et de technologie infiniment supérieur à celui de la Suisse. Et ses collègues des années 40 ont acquis la conviction qu'à moins d'un grand effort national, la Suisse allait sombrer dans la médiocrité scientifique, un danger qui n'est jamais définitivement écarté. C'est ainsi Alexandre von Muralt, professeur de physiologie à l'université de Berne, qui a pris la tête d'une véritable croisade en faveur de la recherche. Et cette croisade a abouti à la création par le Conseil fédéral en 1952 du Fonds national, fondation de droit privé dont les crédits sont votés par le Parlement. Il s'élevait en 2008 à 440 millions d'euros contre 3 milliards pour le CNRS. 3 milliards, c'est à peu près le montant que Novartis consacre à la recherche chaque année. Sur les 15 milliards de francs suisses, 10 milliards d'euros investis globalement dans la recherche et le développement en Suisse, deux tiers proviennent du secteur privé. Ces 10 milliards représentent Si j'en crois les statistiques qui m'étaient accessibles, à peu près 2,9% du PIB, ce qui place la Suisse au cinquième rang après la Suède, la Finlande, le Japon et la Corée. L'Europe a fixé comme moyenne souhaitable 3% du PIB. À la différence du CNRS, le Fonds national suisse n'emploie pas de chercheurs permanents. Il ne finance que des projets qui sont tous limités dans le temps. L'organe suprême, le Conseil de formation, réunit une cinquantaine de représentants des milieux scientifiques, économiques, culturels, de la Confédération et des cantons. Un tiers environ de ses membres est nommé par le Conseil fédéral, les deux autres tiers par les universités, les hautes écoles spécialisées et les cantons. Le Conseil de fondation nomme l'organe stratégique qui est le Conseil national de la recherche, moins de 10 personnes, tous universitaires et chercheurs confirmés, qui organisent le travail des quatre sections examinant les différentes requêtes. En 2008, 3439 requêtes ont été reçues et seulement à peu près 30% sont en fin de compte financées. Grâce à ces 440 millions d'euros, un budget en constante augmentation depuis quelques années, au total quelques 7000 chercheurs ont pu être soutenus, dont 5700 ont moins de 35 ans, les allocations couvrant de 1 à 3 années de recherche. 20% des sommes sont allées aux sciences humaines et sociales, 36% aux mathématiques et aux sciences naturelles, 42% à la médecine et à la biologie. La communauté scientifique et les milieux politiques, à l'exception de la droite populiste, mais elle représente 30% de l'électorat, s'accordent pour penser qu'il faut investir davantage dans la relève scientifique. Certes, les crédits alloués au Fonds national continuent à augmenter, mais ces augmentations ne trouveront des majorités au Parlement qu'à condition que soient parallèlement augmentées les sommes allouées à la formation professionnelle. Grâce au Fonds national, le Conseil fédéral a également découvert les délices du dirigisme en matière de recherche. Depuis 1975, il existe, à côté de la recherche individuelle, dont l'initiative revient aux chercheurs ou aux groupes de chercheurs, il existe à côté de ces recherches la recherche dite orientée, à peu près un huitième du budget global. Et ceci sous une double forme, les programmes dits nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux. Les thèmes des programmes nationaux sont définis par le Conseil fédéral. Il s'agit de susciter des contributions, je cite, « susceptibles d'aider à résoudre des problèmes urgents d'ordre national ». Si parmi ces thèmes, il en existe dont l'urgence paraît évidente, d'autres semblent plutôt obéir à une certaine « political correctness ». Personne ne contestera l'utilité d'une recherche sur, ouvrez les guillemets, la prophylaxie des maladies cardiovasculaires, le premier des plus de 60 programmes lancés depuis 1975, achevé en 82, coût 5 millions de francs suisses, résultats publiés dans des rapports accessibles en allemand et en français. Personne non plus, dans un pays où le taux d'immigration a dépassé les 20% de la population, ne refusera de se pencher sur le thème pluralisme culturel et identité nationale. Programme lancé également en 1975 et achevé en 1991 pour un coût total de 8 millions d'euros. D'aucuns ont néanmoins estimé que le rapport final de synthèse ne s'élevait guère au-dessus des lieux communs. Parmi les programmes actuellement en cours, celui concernant les risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées et leur utilité, lancé en 2006 pour un coût de 8 millions d'euros, la fin des travaux est attendue pour l'année prochaine, répond évidemment à des inquiétudes partagées par une large partie de la population, d'autant que Novartis est un des producteurs des plantes génétiquement modifiées. Espérons que les résultats vaudront mieux qu'un rapport de plus sur une question débattue depuis des années dans de nombreux pays et qu'une recherche nationale ne saurait sans doute résoudre. Aussi, les 8 millions dépensés de 2005 à 2010 pour étudier la diversité des langues et les compétences linguistiques en Suisse me paraissent mieux investis, surtout si la recherche devait déboucher sur des recommandations pour l'enseignement des langues et la promotion du plurilinguisme dans mon pays. Je ne me résigne pas encore à l'idée que la lingua franca soit l'anglais. Je passerai plus rapidement sur les pôles de recherche créés en 2001 et visant à encourager à long terme des projets d'importance stratégique pour l'avenir de la science, de l'économie et de la société. Il en existe une vingtaine, répartis sur une douzaine de sites. Bâle abrite celui des nanosciences et celui de la critique de l'image, Iconess. Le propre de ces pôles, c'est qu'ils combinent financement public et financement privé. Ainsi, les nanosciences à Bâle ont été soutenues par le Fonds national suisse par deux fois, en 2001 et 2005, chaque fois pour une période de 4 ans, par 12 millions d'euros, alors que les contributions de tiers ont été respectivement de 40 et de 18 millions d'euros, c'est-à-dire deux fois et demi les montants publics. Il en va de même pour l'oncologie moléculaire, la phototonique quantique ou les systèmes mobiles d'information et de communication basés à Lausanne. Je ne m'arrêterai pas non plus à la course aux fonds européens. Les universités suisses sont dans ce domaine logées à la même enseigne que toutes les autres universités. Quelle conclusion tirer de ce rapide survol ? Tout d'abord, qu'il n'y a plus d'exception suisse. Le fait d'avoir signé, peut-être un peu trop rapidement, du moins à mon goût, la déclaration de Bologne risque de ravaler nos universités au niveau des universités européennes. Toutefois, grâce à la longue tradition de l'apprentissage, nous échapperons aux universités de masse, ce qui ne signifie pas automatiquement que toutes les universités pourront prétendre à l'excellence dans toutes les filières qu'elles offrent actuellement. Si le maintien des 10 universités cantonales, pour des raisons d'équilibre, ne fait pas de doute, des regroupements s'imposeront néanmoins, et ils seront douloureux, notamment pour les lettres et les sciences humaines. La liste des abandons s'allonge. Neuchâtel a récemment renoncé au grec ancien et à l'italien, Bâle au sanskrit, etc., etc. En revanche, les sciences de la vie s'en tireront, et même fort bien. Les autorités politiques en ont compris les enjeux. Reste à convaincre une population pour qui une bonne qui, pour une bonne partie, affiche quelques méfiances à l'égard de la recherche. Dans le pays de Rousseau, à trop mettre l'accent sur l'excellence intellectuelle et la concurrence internationale, on risque de provoquer les réactions de tous ceux, et ils sont nombreux, qui préfèrent aller à la chasse des papillons sur l'île de Saint-Pierre. Je vous remercie de votre patience.
Vous venez d'entendre M. Robert Kopp, professeur à l'Université de Bâle, qui traitait de la situation et du modèle universitaire dans la Confédération helvétique.